Le dossier M, livre 1 de Grégoire Bouillet, lu par Laurent Poitrenaud, enregistré en public à la Maison de la Poésie le 10 février 2018.
Quelques mots sur le dossier M, au cas où le lire ne suffirait pas. Donc, 1. Le dossier M est dédié à qui veut bien. Tant pis pour les autres. 2. Il y en a marre. Je ne sais pas vous, mais il y en a marre. De ce qui se passe et de ce qui se dit, de ce qui ne se passe pas et de ce qui ne se dit pas. M comme marre. M comme Bette Gibbons chantait dans le morceau intitulé Rose de Portishead. Ne vois-tu pas qu'il y a une guerre à mener? Voilà, il y a une guerre à mener. Contre qui? Contre quoi? Cette bonne blague. 4. L'exergue du livre 1 est une citation de John Coltrane. Je pars d'un point et je vais jusqu'au bout. L'exergue du livre 2 est une citation de Pablo Picasso. Je pars d'un point et je tourne autour. Entre musique et peinture, voilà qui dit quelque chose de la littérature. 7. Petite consigne pour moi-même. Ne raconter que ce dont tu peux personnellement témoigner, uniquement ce que tu as vécu et comment tu l'as vécu. Ne pas tricher. Être dans chaque mot que tu écris, faire de la publicité pour ce qui le mérite. Ne pas chercher l'adhésion du lecteur à partir de sentiments consensuels, de conventions établies, de prises d'otages émotionnelles. Non, créer un lien plus réel que social. Un lien strictement individuel, synonyme paradoxalement d'universel. N'obéir qu'à tes propres injonctions, donner le meilleur de toi-même, parce que c'est ce qu'il y a de plus utile. Te sentir libre sur la page, au moins la liberté sur la page, au moins ça. Prouver que c'est possible. Faire comme si personne n'avait jamais écrit avant toi, que tu étais le premier écrivain sur Terre, et quoi, personne n'a jamais raconté l'histoire que tu vas raconter. 9. Les mots sont des gommes, faire avec cette putain de difficulté. 13. C'est la relation de franchise que tu entretiens avec ton sujet qui t'assigne ton point de vue. 14. Celui-là, je le garde pour moi. 17. Dans la vie de tous les jours, tous nos élans, même les plus joyeux, surtout les plus joyeux, sont fauchés nets. C'est systématique. Toujours nous sommes punis de vouloir vivre. Écrire, c'est justement s'élancer sans personne pour vous mettre des bâtons dans les roues et vous signifier votre inanité. Ici, la différence entre l'art et la vie. 19. Il y avait un chemin, il s'est perdu en cours de route. C'est donc qu'il y a une route. Le deuxième est cette route. 22. Celui-là aussi, je le garde pour moi. 24. Quelqu'un m'a dit un jour, quand je lis ce livre, il s'agissait de Don Quichotte, je me sens défendu. J'aimerais que quelqu'un dise la même chose à propos du dossier M.
Niveau 1. Il s'appelait Julien. Je peux dire son nom. C'est le moins que je puisse faire. Le dimanche 27 novembre 2005, il s'est enfermé dans sa chambre et il s'est pendu avec la ceinture de son pantalon à la poignée d'une fenêtre, pendu jusqu'à ce que sa mort s'en suive et plus tard, bien plus tard, un soir où j'étais seul chez moi et dans un drôle d'état, un état vraiment bizarre, j'ai essayé de comprendre comment il s'était pendu avec la ceinture de son pantalon à la poignée d'une fenêtre. Comment avait-il fait ? Techniquement parlant, je voulais savoir et me rendre compte par moi-même. Je ne voulais plus me poser la moindre question à ce sujet. Je ne voulais pas que mon imagination réécrive l'histoire en toute ignorance de cause, ni qu'elle transforme le suicide de Julien en une fiction occultant par définition ce qui dépasse l'imagination. Et ce soir-là, où j'étais seul chez moi et dans un drôle d'état, un état vraiment bizarre, le genre d'état où on se dit qu'il vaut mieux tenter quelque chose plutôt que rien, et tant pis si cela rate, au moins aura-t-on essayé. Ce soir-là, dis-je, j'ai commencé à refaire dans ma chambre les gestes que Julien avait dû faire et que je supposais qu'il avait fait ce fameux dimanche 27 novembre 2005, comme si les gestes étaient capables de retourner lentement vers la lumière ce que l'on a dans le crâne et que j'allais moi aussi me suicider et en finir une bonne fois pour toutes avec la vie, et aussitôt dit, aussitôt fait. J'ai ôté la ceinture de mon pantalon et je l'ai enroulée autour de la poignée de la fenêtre de ma chambre avant de me la passer autour du cou, avec l'intention de serrer autant que je le pourrais, et pas davantage. niveau 8. On ne parle pas impunément de certaines choses. Non parce qu'elles seraient taboues, non, c'est juste que certaines choses nous laissent interdits, nous laissent sans voix. Certaines choses sont si opaques qu'elles ne laissent pas passer la lumière du langage, pas un mot. Elles se tiennent dans le silence, debout, immobiles, granitiques, braquant fixement leurs yeux de sulfure sur nous, et impossible de les déloger, impossible de leur faire cracher le morceau, et ainsi nous reste-t-elle indéfiniment en travers de la gorge. Et s'il me faut retenir une leçon du suicide de Julien, ne serait-ce qu'une seule, la dernière promis, c'est que certaines choses nous intiment la parole bien plus qu'elles nous intiment le silence. Sauf que ces choses-là ont un prix. Ces choses-là ne se payent pas de mots. C'est nous qui devons payer un minimum de notre personne si nous voulons qu'elles desserrent un minimum les lèvres. Il nous faut les prendre à notre compte, faute de quoi tout ce que nous disons sonne faux, sonne creux, oscille entre platitude et cynisme, devient spectacle, reste emmuré. Combien de fois me suis-je dit, ce n'est pas le sujet qui fait un livre, c'est le livre qui fait le sujet, c'est le livre qui doit faire le sujet. Que les choses soient claires. Je devais parler du suicide de Julien, d'une façon ou d'une autre, je le devais. Le mot « événement » ne convient pas, mais il s'agissait d'un événement dont je ne pouvais m'accommoder un jour de la semaine après l'autre, depuis qu'il avait fait effraction dans mon existence un dimanche aux alentours de midi. J'aurais pu m'en fiche et passer à autre chose, mais non. C'était culpabilité. Mais pas seulement. Et quoi ? Un homme était mort. Un homme était mort après que j'ai couché avec sa femme. Ce n'était pas rien. Ce n'est pas rien la mort d'un homme. Dans quelle langue faut-il le dire ? Dans quelle langue raconter toute l'histoire ? Hier, on m'a parlé d'un documentaire sur les gens qui ont été irradiés à Tchernobyl. On m'a dit, ce documentaire était très émouvant, il était très beau. J'ai pensé, c'est ça qui ne va pas. Des gens se font irradier et à la fin, on dit que c'est un beau film. J'étais encore dans un drôle d'état hier. En même temps, impossible de passer le suicide de Julien sous silence. Le silence n'est pas une option. Oui, mais si le langage est le propre de l'homme, qu'il le prouve. Prouve-le toi-même, et boudu. Fais mieux si tu peux, me suis-je rionné. J'étais vraiment dans un drôle d'état ce matin. Que chacun tente de dire ce qui, ayant été vécu et éprouvé, le touche personnellement de près au cœur et il verra bien. Il se prendra la pauvreté du langage dans les dents, il comprendra sa fatuité, il verra du sable sortir de sa bouche, il entendra le ricanement des mots persiflés entre les lettres, il percevra l'effroyable amertume de ce dont il essaie de parler. Je sais aujourd'hui que si je parle, c'est à partir de l'impossibilité du langage et non à partir de la possibilité du langage. Je parle du fait que nous sommes sans langage. En plus d'être sans destin et sans qualité, nous sommes sans langage. Ce qui, pour quelqu'un qui n'a que les mots, ne facilite pas les choses. Bien sûr, je pourrais faire comme s'il n'y avait aucun problème, que tout était cool, zen, relax, que Julien ne s'était pas suicidé après que j'ai couché avec sa femme, et par parenthèse, celle-ci n'avait rien à voir avec M, ce qui est encore plus débile à la réflexion. Tellement... quoi ? Mais je ne peux pas me taire, je ne le veux pas, pas sans avoir d'abord énoncé le problème. Quoi d'autre ? Ah si. J'en connais un qui, prenant la parole au Sénat, la garda le plus longtemps qu'il lui fut possible, jusqu'à l'extrême limite de ses forces, parlant debout à la tribune 24 heures durant, sans discontinuité, sans s'interrompre, sans reprendre son souffle, sans boire ni manger, parlant de n'importe quoi s'il le fallait, afin de faire obstruction au mensonge. Faire obstruction au mensonge. Voilà l'idée. Hier comme aujourd'hui. Hier comme ce soir. Si on ne connaît pas la vérité, au moins connaît-on le mensonge et c'est un début. Je n'en vois pas de meilleur. Niveau 11. Je sais ce que tu te dis. Tu penses que je dramatise la situation ? Que je m'exagère mon rôle et, du suicide de Julien, que je fais tout un cirque, un foin, une montagne afin d'occuper le devant de la scène. Tu penses que je me complais. Tu te dis que le suicide de Julien ne justifie pas que j'en fasse tout un plat et encore moins un livre. Et quoi, un type s'est suicidé, c'est bien triste, c'est très dommage, mais qu'est-ce qu'on y peut ? Plein de gens se suicident. 10 000 personnes environ en France chaque année, soit 3 fois plus que les morts sur les routes. 3 fois plus que les morts sur les routes ! En parle-t-on ? Peau de balle. Pour qui l'État se mobilise-t-il ? Tout le monde se fiche des suicidés. Bien fait pour eux, semble-t-on dire. Ils n'avaient qu'à pas. C'est tout de même de leur faute après tout. Et bon, je te vois venir avec tes gros sabots, tu as le sentiment que j'en fais trop avec le suicide de Julien. Oui, tu penses que j'abuse du prestige qui nous vient des drames de l'existence et qui nous vaut d'avoir soudain quelque chose de super important à dire, quelque chose de soi-disant urgent à propager dans le monde. Comme si on avait gagné le droit à la parole et le pouvoir de capter l'attention tellement le malheur rend bavard, tellement il impose le respect et cloue le bec et semble un culte à rendre et vive les catastrophes finalement. Hourra pour le malheur! Sans lui, le monde n'aurait plus rien à dire, il perdrait sa langue, il serait muet. Sauf que je ne m'exagère pas mon rôle dans le suicide de Julien. Pas du tout. Attends. Je n'étais pas présent lorsque Julien s'est suicidé. Il ne manquerait plus que ça. Mais je le tiens de Patricia et les policiers arrivés sur les lieux l'établirent par la suite dans leur procès-verbal. Avant d'ôter la ceinture de son pantalon et de sauter lui-même la vie, Julien ôta son pantalon et tous ses vêtements, et, une fois nu, il ôta les cadres et les photos qui décoraient les murs de la chambre conjugale. Il ôta aussi la literie du lit conjugal, les couvertures, et puis les draps, et même les têtes de chacun des deux oreillers. Et je n'étais pas présent, il ne manquerait plus que ça, mais il semble que Julien ait cherché à ce moment-là à ôter de sa vue tout ce qui concernait sa vie avec Patricia et qui matérialisait leur couple depuis bientôt 10 ans qu'ils s'étaient mariés. Et c'était peut-être autre chose qu'il cherchait en même temps à sauter de la tête avant de sauter la vie, faute de mieux, en désespoir de cause, sans vouloir conjecturer. Mais cela ne marcha pas. De toute évidence, cela ne le soulagea pas ni ne le calma, car après s'être mis tout nu et avoir mis à nu le matelas du lit conjugal jusqu'à en exhiber la toile originelle, il a été établi que Julien avait alors chié sur le matelas et à pleine main, directement sur la toile à matelas, avec ses doigts pleins de merde. Il avait écrit le nom de Patricia et juste à côté, il avait écrit mon nom avec sa merde. Ouais. Juste avant de se pendre avec la ceinture de son pantalon à la poignée de la fenêtre de sa chambre, il a été établi que Julien avait écrit nos deux noms avec sa propre merde et, juste en dessous, il avait encore écrit avec sa merde, deux points, ouvrez les guillemets, maudit. C'est ce qu'il écrivit en énorme avec sa merde sur la toile à matelas, juste en dessous de nos deux noms, avec sa merde. Oui. Et ce n'est pas tout. Car tant qu'il put utiliser sa merde, il a été établi que Julien avait dessiné sur la toile nos deux effigies en train de copuler à quatre pattes comme des animaux et, de façon non moins merdeuse, comme ressuscitant à lui seul la préhistoire et ses visions des cavernes, avec une fureur terrible, m'a rapporté Patricia, et sa voix tremblait au téléphone, sa voix n'était qu'une ombre au téléphone, il avait représenté avec sa merde une bite gigantesque qui nous transperçait l'un et l'autre, et cette bite gigantesque prenait côté couille la forme d'un glaive, et putain, quelle horreur avais-je songé sans trouver les mots pour le dire à Patricia. Mais quel enfer avait songé en ne sachant plus où donner de la tête. Putain, c'était possible de chier autant, n'avais-je pu m'empêcher de penser en fermant les yeux pour ne surtout pas me représenter la scène. Il avait la diarrhée ou quoi ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu le matelas. Heureusement que non, il ne manquerait plus que ça, mais je ne vois pas comment je pourrais tirer un quelconque prestige de ce que je viens de raconter. Je ne vois pas comment je pourrais exagérer le rôle que j'ai pu tenir dans le suicide de Julien. Il ne manquerait plus que ça.
Je m'en vais parce que vous riez. Je m'en vais parce que vos rires me gênent. Je m'en vais parce que là, on raconte la mort d'un homme et que vous riez. Moi, j'ai lu ce livre que j'ai adoré. Je n'ai pas ri une seule fois. Au contraire, à la fin, j'ai pleuré.
Niveau 3. C'était en début d'après-midi, vers les 14h30, dans ces eaux-là, dans les locaux du journal où je gagne ma vie, pardon, où je gagne un salaire, ne confondons pas tout. Je revenais de déjeuner et avec V, un ami et collègue, nous discutions dans le couloir à côté de la machine à café et pour camper le décor, il s'agissait d'une machine à café de marque Illico et ce nom m'a toujours fait rire sans raison, nerveusement. Lorsque dans mon dos, une sensation étrange, intense, comme un souffle dans mon cou, une espèce de brûlure, une main se pose en fugacement sur mon épaule. Aussitôt, je me retourne. Tout au bout du couloir, une silhouette disparaît vers les ascenseurs. Ce n'est qu'une ombre, une chevelure qui s'enfuit, rien de tangible, à peine une odeur qui s'évapore, un fantôme qui traverse un mur, une comète pour faire un vœu. Ce genre de sensation. V avait-il vu, senti lui aussi, pressenti comme moi? Je lui avais demandé. D'une voix altérée qui m'avait moi-même surpris, comme si je lui désignais un taillis et tapis dans l'ombre une bête que j'aurais cru voir remuer. Mais il n'avait pas fait attention, il lui avait semblé reconnaître la nouvelle stagiaire que le service marketing comptait embaucher cet été, une certaine MB, il ne savait pas, c'était peut-être la fée Clochette. Rire. Lorsqu'il avait froncé les sourcils, j'étais tout pâle, paraît-il, livide tout à coup, à en croire V qui, plus tard, bien plus tard, m'a remis cette scène en mémoire que j'avais pour ma part totalement oubliée et qu'il en soit ici publiquement remercié car sans lui, il m'aurait manqué une pièce essentielle de mon histoire de M. Pièce au contour de laquelle toutes les autres pièces du puzzle se sont par la suite emboîtées les unes après les autres, comme par magie, jusqu'au suicide de Julien. Pièce que je m'empresse évidemment de verser au dossier. Sans V, j'aurais cru que j'avais rêvé. Lequel, le jour où il me rappela cette scène, trouva d'ailleurs curieux que j'ai pu refouler une telle émotion car il ne m'avait jamais vu dans cet état et quelque chose n'allait pas? S'était-il inquiété? Voulais-je m'asseoir? Désirais-je un verre d'eau? Fallait-il appeler un médecin? J'avais haussé les épaules et d'un geste écarté son aide. En m'accrochant des deux mains à mon gobelet en plastique, j'avais préféré reprendre notre conversation comme si de rien n'était. Mais j'avais les jambes en coton, des papillons devant les yeux. Ce souvenir-là d'un étourdissement soudain, d'un état extrêmement bizarre, comme une faiblesse généralisée. Une brutale et incompréhensible chute de tension, sans rien montrer, cependant, parfaitement lucide en même temps, conscient qu'il venait de se passer quelque chose que je ne m'expliquais pas, mais qu'il était préférable de garder pour moi. Qu'aurais-je d'ailleurs pu dire? Qu'une minuscule aiguille venait de me piquer au vif et de m'inoculer par derrière, d'un trait me pomper le sang ou y injecter une herbe miraculeuse? Autant laisser tomber. L'instant d'après, je n'y pensais d'ailleurs plus. Voilà, c'est tout. Et 18 mois plus tard, Julien se pendait avec la ceinture de son pantalon à la poignée d'une fenêtre. Après que j'ai couché avec sa femme, laquelle s'appelait Patricia et n'avait rien à voir avec M, ce qui, à la réflexion, est encore plus stupide. Tellement... Quoi ? Niveau 4. Mon cœur a-t-il aimé jusqu'ici? Non. Jurez-le, mes yeux, car jusqu'à ce soir, je n'avais pas vu la vraie beauté. Roméo et Juliette, 1597. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Phèdre, 1677. Leurs yeux se rencontrèrent. L'éducation sentimentale, 1869, etc. Bon, je pourrais continuer à l'infini, traverser des siècles plus anciens et exhumer d'autres chefs-d'œuvre ou même de fades romans et jusqu'aux pires analgésiques littéraires, j'aboutirai encore et toujours au même constat. L'amour, comme on dit, nous vient d'abord par les yeux et par nul autre organe. Un coup d'œil précède toujours le coup de foudre pour se confondre avec lui et je ne le conteste pas. Nous sommes aveugles et un beau jour, un jour de splendide béatitude palpitante, voici que nous avons l'impression d'ouvrir les yeux pour la première fois et de voir la lumière pour la première fois. Et nous appelons amour ce baptême émerveillé qui nous fait soudain voir la vie en rose, en bleu, en vert, en jaune. Et on peut retourner ce poncif photoluminescent dans tous les sens. Il n'y a d'aphrodisiaque que l'échange d'un premier regard et tant pis pour les aveugles. Sauf que ma première rencontre avec M fut d'un autre ordre. Elle fut d'une autre nature. Car ce fameux jour de la machine à café de marque Illico, nul choc ophtalmique ne m'ensorcela sur place. Aucune excitation primordiale de la papille optique ni lumineuse révélation hypnotisant ma cornée pour déverser dans mon âme enchantée un miel pour la vie. Dérogeant à la loi universelle, M entra dans ma vie avant que je la voie. Avant que d'elle ne me captive la moindre représentation susceptible de me taper dans l'œil, et voilà bien le mystère dans le mystère, entre M et moi, ce ne fut pas une question d'image, pas du tout. M trouva le chemin de mon être par une voie dont j'ignore le secret, elle franchit mon seuil par une porte à moi-même dérobée, et elle s'insinua dans mes fibres par un sens qui n'était ni la vue, ni l'odorat, et encore moins le toucher, ou l'ouïe, ou le goût, et il faut croire qu'il s'agissait d'un sixième sens, ou peut-être du septième du nom, et je n'en sais rien. Niveau 3. Rompre avec S. Cette pensée me vint alors que je m'échinais à frotter les couches de tartre qui, au fond de la cuvette des WC, s'étaient tellement accumulées avec le temps qu'on se demandait si la chasse d'eau était encore salubre et si je n'étais pas précisément penché au-dessus de la cuvette des WC, mais récurait à ce moment-là tout à fait autre chose. L'idée est là. D'un coup, je sus que je devais rompre avec S. Tu dois rompre avec S. Le moment était venu. Son sourire talmudique, ses yeux rieurs, sa frange agaçante. De ça et du reste, j'avais soupé et ne voulais plus. De ça et du reste, j'avais soudain horreur. Et aussi vite les sentiments nous viennent, aussi mystérieusement ils s'en vont. Et si quelqu'un trouve cela injuste, je suis bien d'accord, mais les sentiments ne sont pas de gauche, que je sache, non plus de droite, mais tout le monde le sait déjà. Quoi qu'il en soit, c'était fini. Je devais rompre avec S. Tu dois rompre avec S. Et penché au-dessus de la cuvette des WC ou dans une génuflexion tout aussi compromettante, j'ai subitement réalisé qu'il me fallait rompre avec S. Je me suis subitement avoué cette évidence au-dessus de la cuvette des WC et quand les mots nous viennent avec une telle clarté, il est trop tard. Les jeux sont faits, nous sommes déjà partis en fumée. Quoi que nous en pensions et que cela nous plaise ou non, nous ne pouvons plus nous dissimuler la vérité lorsque les mots pour la dire nous viennent avec une telle clarté et nous ne pouvons pas faire autrement que d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Et en l'occurrence, WC ou pas WC, il me fallait annoncer à S mon intention de rompre avec elle et j'allais devoir affronter son sourire talmudique et ses yeux rieurs et par-dessus tout, j'allais devoir braver sa terrible frange et découvrir ce qu'elle cachait et c'est ici que les choses se compliquent. Ici que les femmes bafouées, les hommes trahis, poum poum Macron, kanyalao, comme l'hurlait Arthur le Momo, qui savait hurler. Ici que le fait divers, les cris et les larmes, les désirs de vengeance, la guerre des sexes et ses horreurs, pour une fin de toute façon écrite. Ici que le Lucifer l'attend, comme disait le beau Charles. Ici qu'il nous faut prendre notre courage à deux mains, ses responsabilités, comme on dit, ne pas se laisser fléchir par le chagrin de l'autre et toutes les formes horribles qu'il peut prendre, ne pas refuser le mal qu'on sait causer. Alors que nous-mêmes ignorons ce qui nous arrive et pourquoi le soufflet de l'amour est soudain retombé. Alors que nous aurions préféré que le soufflet de l'amour ne retombe jamais plutôt que de devoir affronter ce délabrement et... Parvenu à ce point de non-retour, alors que la bonne question serait d'expliquer et de justifier pourquoi nous devrions rester une seule seconde de plus avec qui nous n'aimons plus maintenant que nous ne l'aimons plus, nous sommes violemment mis en demeure d'expliquer et de justifier notre incroyable prétention à continuer notre chemin où qu'il mène, et il nous faut impérativement expliquer et justifier l'aspiration à vivre qui demeure malgré tout la nôtre. Oui, il nous faut inventer de A jusqu'à Z des raisons crédibles et convaincantes d'être qui nous ne voulons plus être et qui nous voulons encore être. Car nous ne pouvons pas dire « je te quitte ». Juste « je te quitte ». Comme une décision désormais établie dans nos fibres, sachant que nous ne pourrons jamais mieux dire ni être plus proche de la vérité qui est la nôtre, et Aussitôt dit, tourner les talons et nous en aller sans nous retourner, à la fois triste et désolé de la tournure des événements, infiniment triste et sincèrement désolé de la nature injuste et périssable de l'amour et des ravages qui s'ensuivent et dont nous ferons assurément les frais la prochaine fois, afin que soit respecté le grand équilibre de l'univers, mais néanmoins, gai comme un pinson, d'avoir fait ce que nous devions faire et d'être en règle avec notre avenir et tout sourire devant son innocence retrouvée. Désormais débarrassés de nos chaînes et avides de l'inconnu qui nous attend, et quelle joie ! 1000 mésanges zinzinules dans notre cœur. Comme nous voici légers et soulagés. La Quelle euphorie de larguer enfin nos amarres et, affranchis du poids mort, de l'amour mort, de sentir la petite brise souffler de nouveau dans notre âme et un seul être débarrasse enfin notre plancher et tout redevient frisson, peur, désir. L'aventure retrouve sa dignité. L'horizon s'écourbe à perte de vue. Oui, rompre avec S, je devais. Et le devais maintenant. Poum poum, akum tchala. Niveau 6. Je me rappelle que M avait ce déhanché qui n'appartient qu'aux femmes mais que toutes ne possèdent pas. C'était même à la regarder s'éloigner un miracle anatomique que son déhanché, le sien. C'était un pur moment d'érotisme pur dont j'avais eu plutôt un fugitif aperçu lorsqu'elle avait tendu le bras pour attraper une cigarette sur le bureau et au niveau du coude, son avant-bras s'était incroyablement désaxé vers l'extérieur. Il était sorti de son axe d'un angle d'au moins 160 degrés, peut-être 150, alors que cet angle atteint péniblement 170 degrés chez l'homme et je ne sais pas. La vision de son radius se désolidarisant de son cubitus jusqu'à opérer un fantastique mouvement tournant m'avait causé un choc émotif. Il m'avait bouleversé comme l'expression la plus tangible de sa féminité, une vulnérabilité intrinsèque, une somptueuse anomalie, la révélation de quelque chose de cassé en elle qui donnait envie de la prendre dans ses bras ou d'amplifier la fracture interne jusqu'à disloquer complètement ce bras qui se brisait de lui-même lorsqu'il s'étirait dans l'air comme se brise un bâton que l'on plonge dans l'eau. Mais ce n'était rien à côté de son déhanché. Je n'avais pas encore vu son déhanché. Le sien était un absolu à lui tout seul. Il était un affolement. Il n'était pas un pauvre trémoussement que certaines femmes se croient tenues d'amplifier à l'intention des hommes, comme si leur cul était payé pour faire de l'œil aux hommes et leur envoyer des baisers afin d'exciter leur convoitise la plus élémentaire, selon l'idée que nombre de femmes se font de l'idée que nombre d'hommes se font d'elles dans un perpétuel jeu de miroir rétrécissant. Et ce n'était pas le cas de M. Elle n'avait pas besoin de forcer sa démarche. Elle était une anti-Marilyn, laquelle, par parenthèse, sciait d'un demi-centimètre le talon droit de ses chaussures afin d'accentuer l'opulence de son déhanché et le rendre toujours plus explicite et spectaculaire. Et M n'avait pas besoin de ce genre d'artifice. Son déhanché était d'une autre nature. Il était une évocation plus organique, exprimait une vérité plus intime et essentielle, une différence plus radicalement féminine, la découverte ébloui d'une altérité radicale et fascinante. La preuve, chaloupée, osseuse, vertigineuse d'un tic-tac sexuel fabuleux. Oui, c'était ses os qui parlaient lorsqu'elle marchait. L'extrémité distale de son fémur, pour être précis. L'échancrure intercondylienne, pour être encore plus précis. Car je me suis documenté sur le sujet tellement je voulais élucider ce mystère que très peu de femmes possèdent naturellement à ce point de perfection évocatrice. Cette merveille anatomique qui n'appartenait pas à M, mais qui l'excédait. Ce féminin roulis des choses qui lui faisait comme une traîne, une aura, une madrague dans le couloir. La rendait complice de la marche du temps, jusqu'à toucher au sublime même. Oui, M possédait aussi ce don-là que je verse religieusement au dossier. Niveau 2. Un jour, j'ai rencontré une fille dans une chips. Sa façon de passer ses cheveux dans la main soyeuse du bar me plut tout de suite et je te passe les détails. Elle ressemblait un peu à la fille qui, dans une pub à la télé, danse à reculons sur un pot de Nutella. La brune, en pullover rose et pantalon gris. On la voit pas longtemps, mais j'ai toujours plaisir à l'apercevoir. J'adore sa silhouette, ses longues jambes, sa façon de bouger, de faire le chat qui feule avec ses bras tout en imitant le moonwalk à reculons sur l'air de « I want you back » des Jackson 5. Et je voudrais me régaler un matin avec cette fille. Putain, des gens se foutent sur la gueule pour économiser 3 euros sur un pot Nutella et voici que je tombais sur la femme chocolat elle-même. Quelle aubaine! J'avais drôlement hâte qu'elle réveille mon enthousiasme au son des Jackson 5. Et dans ce bar, je fredonnais presque « I want you back » en pensant à M lorsque je m'assis sur un tabouret à côté d'elle. Et... bref. 10 minutes plus tard, nous discutions gentiment ensemble comme s'il était entendu que nous irions tout à l'heure ou chez elle ou chez moi. Et en attendant ce doux moment, tandis que les effluves chocolatées qui émanaient d'elle m'ensorcelaient déjà de façon aphrodisiaque, je m'étais mis à raconter de façon quelque peu exubérante une série télévisée anglaise intitulée « From There to Here », dont j'avais vu la veille un épisode. La série racontait l'histoire d'un type, Daniel, la quarantaine, chef d'entreprise et fervent supporter de Manchester United, mais là n'était pas l'important. Le truc, c'est qu'il menait une double vie avec deux femmes, Claire et Joanne, qu'il aimait autant l'une que l'autre sans pouvoir se résoudre à choisir l'une plutôt que l'autre, l'une au détriment de l'autre, et ainsi filait-il le parfait amour au carré. Sans le dire, cependant, dissimulant évidemment qu'il possédait tout en double, femme, foyer et même enfant, non par goût mais par nécessité, parce qu'il se doutait bien que les deux femmes de sa vie n'apprécieraient pas qu'il les partage à égalité. Et du reste, lui-même ne comprenait pas comment il avait pu se mettre dans une pareille situation. Il évitait d'y penser. Il savait seulement qu'il aimait ces deux femmes et qu'il vivait cette situation comme un bonheur plutôt que comme un problème. Et je parle à la fille Nutella. S'était-elle déjà retrouvée dans ce genre de situation? Avait-elle déjà aimé deux hommes à la fois? Elle préférait ne pas. Non, bien sûr. À la jalousie. Ah, évidemment, la jalousie. Et puis l'aspect moral, hein. Je comprenais. De toute façon, tant qu'on n'a pas vécu soi-même les choses, on ne peut pas vraiment juger. Non, elle avait tout à fait raison. Elle était sacrément futée pour quelqu'un qui faisait le moonwalk à reculons sur des pots de pâte à tartine chocolatée. Arrivé le moment où la vérité éclatait. Alors, bien sûr, ben, ça ne serait pas drôle sinon, il s'agissait d'une série télé. Après avoir fait un malaise cardiaque, Daniel se retrouvait à l'hôpital et, morte d'inquiétude, les deux femmes de sa vie débarquaient à son chevet pour découvrir avec stupeur l'existence de l'autre. Et cela tournait tout de suite au carnage. Bien sûr. Ça serait pas drôle sinon. Ah, vous imaginez le choc? Ah, vous auriez réagi comment? Hein, mal? Ah, ah, très mal. Ah, très très mal. Ah, ok. Enfin, pour leur part, Claire et Joanne l'avaient sacrément mauvaise. Ce n'est rien de le dire, mais au lieu de se crêper le chignon, ce que les scénaristes auraient pu envisager, car ce sont les scénaristes qui décident, hein, pas les personnages de fiction. Ah, faut jamais l'oublier. Ils, les scénaristes, avaient pris le parti que Claire et Joanne s'alliaient immédiatement pour se retourner contre Daniel et agiter au-dessus de sa tête tous les couteaux du mot trahison, chacune selon son caractère, depuis la colère la plus explosive pour Joanne jusqu'au dégoût le plus méprisant pour Claire et... Vous en pensez quoi? Ah, je veux dire... Claire et Joanne étaient-elles vouées à se comporter de cette façon? Il s'agissait pourtant d'une fiction. Il s'agissait d'une fiction, oui ou non? Je veux dire, il ne s'agissait pas de la réalité. On parlait ici d'un choix scénaristique. On parlait de parti pris, de décisions prises en amont qui font que les choses se déroulent comme ceci plutôt que comme cela à l'écran. Et c'est drôle comme on juge les marionnettes et jamais les marionnettistes. Non, je ne dis pas cela pour vous, hein, mais les scénaristes auraient très bien pu imaginer une autre tournure des événements. Bah quoi? Les fictions sont tout de même l'occasion rêvée d'inventer de nouveaux comportements. Pourquoi se priver? Au lieu de tendre un miroir à la réalité, la fiction pourrait lui tendre la main pour la sortir de ses ornières. Elle n'est pas forcée de la renforcer, comme on dit, d'une névrose. Hein, qu'est-ce que ça lui coûterait? Alors, j'étais lancé. Et d'une traite, d'une voix que je sentais monter dans les aigus, je martelais que j'en avais marre de ces scénarios qui nous imposaient des versions de nous autres dénuées de la moindre intelligence. Comme si nous étions incapables d'agir autrement que sous le coup de l'émotion et la pression des événements. Putain, nous avons un cerveau, mais putain, j'aimerais que les personnages de fiction nous donnent des idées plutôt qu'ils nous piquent les nôtres. Et par exemple, j'aurais adoré que Claire et Joanne ne se conduisent justement pas comme il était si prévisible qu'elles se comportent. J'aurais adoré qu'elles innovent, que le scénario nous montre qu'il est possible de réagir à un autre niveau individuel des choses, même si nous l'ignorons, parce que personne ne nous dit jamais que nous sommes plus vastes que nous le croyons. Et ne me dites pas que se comporter autrement ne serait pas crédible, car les personnages de fiction, ils ne sont pas vraisemblables. Pas une seule seconde. Ils ne sont pas comme vous et moi. Ah non, mais chauffais-je carrément sur mon tabouret. Par exemple, on dirait qu'ils n'ont jamais lu aucun livre. Vous avez remarqué? Et c'est dingue, non? C'est comme s'ils étaient acculturés, je vous jure. Mais rassurez-moi, vous lisez de temps en temps. Non mais des livres ou même des journaux. Et vous tirez certaines informations de vos lectures. Enfin, vous n'êtes pas qu'affect. Hein, vous ne faites pas que danser à reculons dans une pub à la télé. Vous savez quoi? J'ai souvent envie de dire à un personnage de fiction, comme si j'étais à Guignol, hey, « Hé! Wow! Hé! Hey, tu fonces dans le mur, mon pote! Gaffe! Mais t'es con ou quoi? Mais t'as jamais lu Marx ou Freud ou l'Odyssée d'Homère? Mais t'es au courant que l'homme a marché sur la Lune, que la structure de l'ADN a été découverte, que la série Dallas a eu lieu, etc., etc. » Pot de balle. Les personnages de fiction, ils s'éclairent intellectuellement encore à la bougie. Ils en savent foutrement moins que vous et moi sur la vie, et surtout, et en définitive, ils nous tirent vers le bas. Voilà. Non, vous allez rire, mais je m'imagine parfois rencontrer tel ou tel personnage de fiction dans la vraie vie, et je me demande de quoi nous pourrions bien parler. J'ai peur que la conversation ne tourne très vite court. Mais bon Dieu, ils ignorent même les innombrables personnages de fiction qui les ont précédés. Et c'est tout dire. Quand on songe qu'ils ne s'en prennent jamais à l'auteur qui les a créés, comme si Dieu devait toujours exister dans la fiction, et hein, non? Vous n'êtes pas d'accord? Ah, vous trouvez que j'exagère? Vous voulez pas danser Herculon pour moi sur le bar? Ah ok, j'insiste pas. Ah, n'empêche, Claire et Joanne, elles auraient pu ouvrir les yeux au lieu de s'ouvrir tout de suite les veines. Elles auraient pu éclater de rire plutôt que... Attendez. J'ai noté dans un de mes petits carnets le tombereau de merde qu'elle déverse sur la tête du malheureux Daniel juste après son infarctus et... La minute, voilà. Voilà, j'y suis. Je cite, hein. Tu t'es fichu nous, espèce d'enfoiré. Ah, c'est toujours pareil avec les hommes. Ils ont une bite à la place du cerveau. Tous des porcs. Mais regarde-toi, tu as voulu te taper deux femmes comme un sale pervers que tu es. Mais as-tu pensé aux conséquences? Tu n'es qu'un sale connard de merde. Et les enfants? T'as pensé aux enfants? Ah, mais non, tu n'as pensé qu'à toi. Tu as menti parce que tu es incapable d'affronter la réalité en face et que tu te moques de faire souffrir les autres. Et oui, ainsi de suite. Puis, bam, boum, boum, bap, sur la tête de Daniel et sur la tête du téléspectateur aussi, qui sait maintenant ce qu'il attend si d'aventure lui prend l'idée d'aimer deux femmes. Ou deux hommes. En même temps. Pif, pam, boum. Le message passe 5 sur 5. Le téléspectateur apprend comment se comporter dans semblables situations. Voici qu'on lui souffle son texte. Vous parlez d'une surprise. Quand bien même Claire et Joanne abattent ici la mésange, puisque si Daniel leur a menti, c'est justement par peur des conséquences. C'est pour éviter de les faire souffrir. Et accessoirement se protéger lui-même. Ce qui s'appelle être lucide. Et selon moi, témoigne d'une vraie sensibilité. Qu'en pensez-vous? Non, je parle ici à la fille Nutella, hein, qui, à cet instant, s'agitait bizarrement sur son tabouret comme si elle était assise sur un oursin. Mais Daniel n'est pas débile. Il sait que les femmes sont folles. Car c'est bien connu, les femmes prennent tout mal. Elles réagissent de façon purement émotionnelle et pas la peine de faire cette tête. Inutile de me fusiller du regard. J'y suis pour rien si les femmes ont cette mauvaise réputation. Si elles se jettent par la fenêtre pour un mot de travers, tout le monde sait que pour un rien qui leur déplaît, elles sont capables des pires violences, qu'elles détestent les hommes et n'attendent qu'une occasion de les agonir. Non mais et quoi? Depuis des millénaires qu'elles sont opprimées, les femmes ont des raisons historiques de se venger. Des raisons sociales, culturelles, indubitables. C'est comme les Noirs, pour ne citer qu'eux. Ok, je sais pas pour vous, mais prévoir ce qui a toutes les chances de se produire, c'est justement ça. Affronter la réalité en face, c'est pas autre chose. Loin de tomber des nues, Daniel ne doute à aucun moment de la réaction épouvantable de Claire et de Joanne s'il leur avait révélé la vérité. En tant que femme, il ne leur fait pas du tout confiance. C'est pas de leur faute. Mais Claire et Joanne ne peuvent pas comprendre qu'ils puissent les aimer toutes les deux à la fois. Et le plus drôle, si j'ose dire, c'est que Claire et Joanne en sont elles-mêmes si bien convaincues qu'elles se comportent exactement comme Daniel le redoutait. Elle pète immédiatement un plomb en apprenant la vérité. Eh ouais, Elles collent magnifiquement à leur personnage de folle furieuse, comme si, à force de s'entendre dire qu'elles sont dans l'hystérie, les femmes ne s'envisageaient plus autrement, et pire encore, qu'elles se chargeaient elles-mêmes de démontrer combien elles sont des femmes en devenant le plus hystérique qu'elles le peuvent, et pas la peine de faire cette tête, vous dis-je. Je parle pas de vous en particulier, je parle pas seulement de M, ni même de ma mère, non, je parle des scénaristes. Qui enferment leurs personnages dans des caricatures alors qu'ils pourraient prendre une autre option narrative. Ils pourraient montrer des femmes qui pensent avec leur tête plutôt qu'avec leur nerf. Qu'est-ce qui les en empêche ? Moi, cela m'intéresserait qu'on fasse de la publicité pour l'intelligence. Cela m'aiderait. Je serais peut-être moins un stéréotype dans mon genre. Nous serions peut-être tous moins des stéréotypes. Putain de scénariste ! Bon, j'espère que vous n'allez pas maintenant me faire chocolat afin de réaliser votre condition de fille Nutella. D'autant que je ne vous ai pas dit, mais Claire et Johan ne sont pas sans ignorer que Daniel a été adopté à la naissance. Ainsi qu'on l'apprend plus tôt dans la série, mais sans faire le lien. Vous comprenez ? Les scénaristes ignorent superbement cet aspect de l'histoire qu'ils ont pourtant eux-mêmes jeté en pâture aux spectateurs. Ils n'en font rien du tout, et à l'écran, les deux femmes se gardent bien de les rappeler à leurs obligations narratives. Elles préfèrent devenir folles de rage, et elles ne s'en privent pas, comme une volonté délibérée des scénaristes de les laisser dans l'ignorance la plus préjudiciable, et le spectateur par la même occasion, comme si cela n'avait aucun rapport avec le fait que Daniel aurait pu développer un sentiment duel de l'existence. Qu'il aurait été amené, malgré lui, insensiblement, à nourrir en son fort une conception très particulière de la famille, où un seul foyer ne représenterait que la moitié de la vérité, et où une autre famille devrait nécessairement se trouver quelque part dans le paysage, quoique officieuse et occultée. Dans son cas, ce n'est pas comme si son existence se fondait sur une unique certitude. Pour lui, la vérité était forcément double et on ne pouvait pas lui demander de faire comme s'il n'avait pas été adopté. De par son histoire familiale, son intégrité exigeait qu'il vive deux existences à la fois et c'est à cette condition qu'il pouvait trouver son équilibre. Se sentir restitué et non plus mutilé, c'était plus fort que lui et sachant cela. À quoi d'autre pouvaient s'attendre Claire et Johan ? Pensaient-elles que tout le monde doit se comporter d'une seule et même manière au mépris de ceux qui fondent les uns et les autres ? C'était tout à fait stupide. C'était parfaitement idéologique. Il n'y a pas que la couleur de la peau ou je ne sais quoi d'aussi visible qui nous différencie. C'est nier d'où venait Daniel et ce qui le constituait. Ce n'était peut-être pas totalement par hasard si elles aimaient un type qui avait ce genre de problème. Chacun d'entre nous n'est-il pas soumis à certains impératifs psychiques qui lui sont propres et pourrait-on discuter de ce problème calmement ? S'il vous plaît ? S'il vous plaît. Niveau 4. J'ai fait un petit sondage parmi mon entourage. Il vaut ce qu'il vaut, mais il en ressort que je ne suis pas le seul à éprouver le sentiment d'avoir loupé un épisode dans mon existence. D'avoir raté ma vie, pour tout dire. Pas le seul à me demander, dans un moment d'absence ou de lucidité, comment l'existence a pu prendre la direction qu'elle a prise. Comment en est-on arrivé là où on en est ? À cette débâcle, à ce désastre. Par quel détour et sortilège ? Quel est le fil conducteur au-delà des étapes pas à pas ? Sans même parler du suicide de Julien, que s'est-il passé exactement ? À quel moment ? Pour se retrouver à vivre cette vie et pas une autre, à habiter cet appartement devenu à la longue une prison, à faire le même boulot jour après jour, comme un automate, comme un zombie, à partager son lit avec la même personne, toujours la même, à voir les mêmes amis en cercle fermé, en cercle de plus en plus étroit, sans parler des gosses qui n'en ont rien à foutre et de la caisse du chat changée chaque jour où le chien sortir matin, midi et soir, etc. Ce n'est pas que cette vie, cet appartement, ce boulot, cette personne, ses amis, ses gosses, ce chat ou ce chien soit épouvantable. C'est pas ça. Pas seulement ça, dixit mon petit sondage. C'est plutôt que cette vie semble tellement incongrue, inerte, mutilée, raccourcie, pétrifiée, peau de chagrin. Elle est devenue n'importe quoi, vie débile, vie hors sujet, vie morte et enterrée, et j'en passe de plus grossier du style vie de merde, vie de con, et je suis bien d'accord, j'en ai autant à mon service. Ma vie n'est pas ma vie, m'entends-je moi-même dire dans pareil moment d'absence ou de lucidité, et dire d'une voix forte, presque un cri, ma vie est une autre, me mets-je à boxer l'air des deux poings dans ces moments-là. Elle ne ressemble pas à ma vie, ah non, elle est ce que ma vie est devenue contre toute attente, par la force des choses, comme on dit, la foutue force des choses, par négligence et faiblesse aussi, par ma faute, je veux bien l'admettre, par lâcheté et pression sociale, ou je ne sais quoi, déterminisme en tout genre, poids du passé et peurs implantées, accumulation de hasards, de circonstances diverses et variées, d'infimes décisions prises sur le moment, sans mesurer leur portée, sans parler d'un manque probable d'imagination, d'un travail de sape à la racine, de rencontres plus ou moins favorables, plus ou moins fatales, et M comme malchance. Résultat, toute notre existence se retrouve vidée de sa substance. Elle n'est plus qu'un leurre, un cadavre, une livide pantomime. Elle ne vaut même pas la peine d'être vécue, même si on préfère ne pas se l'avouer et qu'on fait tout pour se convaincre du contraire. Mais bon Dieu, comment ai-je pu me retrouver dans une telle merde ? Ai-je contrôlé quoi que ce soit un jour ? Aurais-je choisi cette existence si on me l'avait montrée sur catalogue ? L'aurais-je souhaité en poussant des cris de joie et en trépignant d'impatience lorsque j'avais 10 ans ? Suis-je l'être que j'espérais devenir ? Les réponses à ces questions sont toutes désespérantes et dans ces moments d'absence ou de lucidité qui, fort heureusement, ne durent jamais longtemps, comme s'il était psychiquement impossible de s'éterniser dans semblables moments d'absence ou de lucidité, un mot finit parvenir de manière irrésistible aux lèvres, et c'est le mot escroquerie. Ce mot-là, avec lequel il nous faut nous bagarrer tout au fond de nous en un combat sordide à main nue, une lutte visqueuse afin qu'il ne nous emporte pas tout entier et l'univers du même coup, ne nous gâche pas toute joie de vivre, ce qui semble avoir été le cas de Julien. Sans vouloir conjecturer. Niveau 20. Je me rappelle aussi que M disait comme tout le monde aujourd'hui, disait elle aussi, je veux profiter. Je veux profiter de mon stage, des vacances, de la vie, etc. Profiter. Profiter. Mais bien sûr, mais comment donc, pas de problème, c'est tout naturel. Profiter ne coûte pas plus cher, prétend actuellement une publicité sur les murs de Paris. Putain de zob. Mais on profite toujours de quelqu'un ou de quelque chose, c'est-à-dire à ses dépens. Profiter signifie tirer un bénéfice, cela suppose léser l'autre, rien à voir avec savourer, par exemple, ou avec apprécier. Chaque fois que j'entends dire, et c'est 10 fois par jour, deux points, ouvrez les guillemets, on en a bien profité, hein. Ou, allez, profite bien. Ou, fin du fin, il faut profiter. Je me crispe. Je me cabre intérieurement. Je deviens tout rouge. Je voudrais que ce mot et le monde qui en a fait son mot d'ordre disparaissent du dictionnaire. Comme tout le monde aujourd'hui, M disait aussi, je gère le boulot, mon temps, mes émotions, etc. Je gère. Et moi de grincer pareillement en silence de l'autre côté du bureau, dans la galaxie, la mienne, comme des fausses notes vibrant sourdement dans l'air, des corbeaux s'attroupant au-dessus d'un champ de tournesol. Il y a 20 ou 30 ans, personne ne disait vouloir profiter de ses vacances, de la vie, des bonnes choses, etc. Il y a 20 ou 30 ans, personne ne disait qu'il gérait ses émotions, son temps, etc. On aurait ri de soi si on s'était entendu parler, on se serait donné des gifles. Je le sais, j'y étais. J'ai vu cette évolution du langage dans la foulée de Dallas, au niveau individuel de chacun, dans ma propre bouche aussi. Eh oui, hélas, à force de subir moi aussi la pression de baigner dans le même jus. L'autre jour, à la supérette du coin, un type a prévenu sa copine, manifestement sa copine, « Tu t'occupes des légumes ? Moi, je gère le beurre. » Je gère le beurre. Il ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il disait. Sa copine non plus. Elle avait compris le message, elle l'avait reçu 5 sur 5, tout était normal. Lorsqu'on devient si contemporain, il est déjà trop tard. On ne peut plus rien refuser, on n'a déjà plus de nom, on est indifférencié. Pour ma part, savourer les bonnes choses de la vie n'est pas profiter d'elles. Cela n'a rien à voir. La saveur n'est pas un profit. Idem avec apprécier, goûter, jouir, etc. Chacun de ces termes traduit une nuance, une subtilité, un rapport personnel. Ils ne furent pas inventés pour rien. Mais pourquoi s'embêter si un seul verbe, aussi impersonnel soit-il, précisément parce qu'il est impersonnel, permet de faire l'économie de 10 autres qui, comme par magie, se trouvent congédiés, j'allais dire licenciés. Si un seul verbe s'avère d'une rentabilité maximale, ne permet plus de penser autrement que dans le format voulu, sachant que la langue préfigure toujours un passage à l'acte. On commence par dire qu'on veut profiter de la vie, on continue en disant qu'on gère sa vie, et que dira-t-on ensuite? Que fera-t-on ensuite? Quelle est l'étape suivante? Attends. Qui a dit « Je ne suis pas un dictateur, j'ai seulement simplifié la démocratie ?» Réponse, Hitler. Attends. Qui a dit « Nous ne voulons pas convaincre les gens de nos idées. Nous voulons réduire le vocabulaire de telle façon qu'ils ne puissent plus exprimer que nos idées. » Réponse, Goebbels. Qui dit mieux? Cet appauvrissement de la langue, cette volonté de l'appauvrir, elle a déjà eu lieu dans un passé qui n'est pas si lointain, car le Troisième Reich a réellement soumis la langue allemande à, je cite, « un vœu de pauvreté pendant plus d'une décennie ». On le sait parce qu'un homme a, dans son journal, consigné au jour le jour l'émergence de la novlangue nazie. Il a consigné scrupuleusement son élaboration, sa diffusion et son succès avec une acuité inégalée, une douleur à la fois sincère et objective, et cet homme s'appelait Victor Klemperer. Et là, tout de suite, si l'auteur de LTI, la langue du Troisième Reich, était encore vivant, trouverait-il que l'appauvrissement actuel de la langue réalise mine de rien, de façon plus virale qu'autoritaire, le même vœu de pauvreté? Marche joyeusement sur les traces du projet nazi? Fait passer en douceur le projet économique dans l'intimité des pensées de chacun, le rendant notoire aussi bien au café que sur l'oreiller, dans les urnes comme dans les supérettes, tellement familier que ce projet devient lien social entre les individus, devient ce qui médiatise les rapports humains jusqu'à devenir invétéré, pleinement envisageable dans les mots, puis dans les consciences, et au bout du compte, fatidique et inéluctable dans la réalité que fabrique justement cette langue, sans que plus rien puisse s'opposer à elle. Car avec quel mot pourra-t-on alors la contester? Dans quelle langue? Dans quelle langue? Niveau 21. Plus tard, elle mord ma main. Nous sommes dans ma chambre, assis en tailleur sur le lit, le cendrier posé entre nous, des verres et une bouteille de vin apportée. J'ai allumé des bougies et, à la lueur fragile et joliment picturale des petites flammes qui projettent plus d'ombre que de lumière sur les murs, nous parlons doucement de choses et d'autres, sur le ton de la confidence. Nos paroles elles-mêmes frémissantes et incertaines comme la flamme des bougies. Lorsque M, interrompant mon geste pour attraper une cigarette, me prend la main et la porte à ses lèvres. Je crois qu'elle va effleurer mes doigts d'un baiser de velours, y déposer le souffle de sa tendresse. Oui, elle va enfin me manger dans la main, pas trop tôt. Mais au lieu de cette douceur espérée, elle referme sa mâchoire sur ma main et la mord. La mort, la mort, la mort, la mort encore plus fort, la mort aussi cruellement qu'elle le peut, en me regardant droit dans les yeux, moi serrant les dents, moi faisant le brave devant elle, faisant le type qui ne sent rien. Elle peut y aller, elle peut m'arracher la main si ça lui chante. Je suis un dur à cuire, je suis en acier trempé.
Oh, je suis un homme. Un caïco. Je crispe les mâchoires, je sens des larmes me venir, je sens le signal électrique de la douleur inverser toute polarité dans mon être et son potentiel d'action enflammer mon cerveau. Je sens la flèche de feu me transpercer, mais je résiste, hein. Je continue de lui sourire autant que je le peux. Elle ne peut rien m'extorquer que je ne lui donnerai de bon cœur si elle me le demandait gentiment. Personne ne peut rien m'extorquer. Oh, la sainteté. Oh, la vache. Oh, putain. Aïe. Moi, dégageant alors brutalement ma main de sa mâchoire, la lui arrachant littéralement des dents, en poussant un cri, en bondissant hors du lit, en agitant dans tous les sens mon bras en feu. Elle se dressant alors hilare sur le lit, les yeux comme fous, étincelants, jetant des éclairs rouges et noirs, la bouche torve, l'air d'une goule, son air goule, sa bête dans la jungle de sortie, dressée sur ses ergots, en pleine fanfare. Bon Dieu, cette fille est dingue, avais-je songé en agitant ma main transpercée de douleur. Elle est complètement givrée, plus que malade mentale. Elle adore vraiment le sang. Ça l'excite pour de vrai. Oh God, cette fille est une cannibale, avais-je songé, la main en feu. Cette fille est une punk. Sous ses airs de nitouche des beaux quartiers, elle cache une chienne enragée et putain, je déteste ça. Putain, j'adore ça, m'étais-je écrié en moi-même dans un éblouissement comme une révélation, parce que c'était elle et personne d'autre, parce que... Quoi ? En conclusion de l'exploration fonctionnelle du système nerveux par électromyographie, à laquelle je soumis plus tard ma main, laquelle, faute que le moindre influx nerveux n'y passe plus, refusait de m'obéir et semblait à présent une chose inerte et vaguement putride, il apparut que je souffrais d'une dégénérescence distale sensitive et motrice de plus de 80% des fibres au niveau du nerf cubital. Ah ouais. Tout de même. Plus de 80%. Elle n'y était pas allée de main morte, si je puis dire. Elle ne m'avait pas mordu pour de rire. Elle n'était pas mordue à moitié, mais à 80%.
Vous venez d'entendre le dossier M, livre 1, écrit et adapté pour la radio par Grégoire Bouillet, lu par Laurent Poitrenou. Enregistré en public à la Maison de la Poésie le 10 février 2018. Équipe de réalisation, Christophe Michou, Emmanuel Armingue, Laurelaine Planchet, Sophie Haute-Picon. Merci à Thomas Hamon, Valentin Ventura et aux équipes de la Maison de la Poésie. Le dossier M, livres 1 et 2, est publié aux éditions Flammarion.